affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy, merci de votre fidélité. Aujourd'hui, alors que nous nous apprêtons à enregistrer notre émission, depuis le studio, nous pouvons voir la Seine dont le flot charrie un nombre impressionnant de débris. Le niveau de la Seine monte, ça nous ramène à l'identité fluviale de la capitale, et ça nous ramène aussi, mais ce n'était pas prémédité, au sujet de notre émission. Nous avons en effet le plaisir de recevoir dans nos studios Frédéric Vitou de l'Académie française, qui a publié voici quelques mois « Au rendez-vous des mariniers ».« Au rendez-vous des mariniers », c'est le titre de son livre, mais c'est aussi, car tel est le sujet, l'enseigne, le nom d'un restaurant célèbre mais disparu de l'île Saint-Louis, qui est cher au cœur de Frédéric Vitou. Et nous allons donc nous y rendre au fil d'une formidable enquête que vous avez menée sur ce restaurant, mais qui a accueilli des personnages certes célèbres et littéraires, mais j'ai découvert en lisant votre livre que ce n'est pas la raison pour laquelle vous vous êtes intéressé à ce restaurant. Alors, laquelle? Comment cela s'est-il passé?
Je crois qu'en fait, il y a eu plusieurs raisons qui m'ont conduit à écrire ce livre. La première, peut-être, en effet, c'est que j'habite à un bout du Quai d'Anjou. Ce bistrot, ce restaurant populaire au rendez-vous des mariniers était situé à l'autre bout du Quai d'Anjou, assez proche du Pont-Marie. Et il a fermé ses portes en 1953. Il avait ouvert en 1904, donc grosso modo, c'est la première moitié du XXe siècle. Et moi, enfant, je suis passé devant des dizaines de fois, des centaines de fois sans doute, et curieusement, je n'en gardais aucun souvenir. Comme si le rendez-vous des mariniers précédait ce moment où j'ouvre les yeux sur le monde et je le regarde et je le mémorise. Donc c'était juste l'avant ma naissance. Donc explorer la vie de ce café, c'était un peu pour moi explorer juste ce qui a précédé, le demi-siècle qui a précédé en quelque sorte ma venue au monde ou une certaine forme de clairvoyance que j'ai sur le monde. Et donc, ça m'amusait d'interroger ce qui est de l'autre côté. Voilà. Et puis, il y avait d'autres raisons. C'est racontant ce restaurant, racontant en gros ce premier demi-siècle du XXe, c'était une manière aussi d'explorer ma mémoire familiale. Parce que mon grand-père s'est installé dans l'appartement où je vis en 1906, c'est-à-dire à 2 ans près au moment où ouvre ce café, ce restaurant. Et c'était une manière, donc il y avait une première lecture et un premier désir plus ou moins conscient de ma part, c'est d'évoquer une sorte de mémoire familiale de mon grand-père, de mon père, de ma famille, à partir de ce prétexte du bistrot. La deuxième raison était aussi un peu différente, c'était une raison un peu sociologique, car j'ai vu, moi, en revanche, disparaître cette vie de la batellerie sur la Seine. Petit, je voyais encore les bateaux-mouches, passaient bien sûr, il y en a toujours, mais aussi les péniches amarrées en face de chez moi, le long du port des Célestins, et des tas de sable. Je revois encore l'image de ces remorqueurs qui baissaient leur cheminée pour franchir les ponts. Et donc, j'ai assisté au dernier soubresaut de la vie économique fluviale de Paris. Bien sûr, il existe toujours une activité fluviale, mais elle est maintenant en amont ou en aval de Paris. Paris n'est plus un port, proprement dit. Et ce rendez-vous des mariniers, comme son nom l'indiquait, témoignait, lui, d'une vie encore plus active, puisque non seulement comme il y avait des mariniers qui faisaient un peu un fond de clientèle de ce bistrot de l'île Saint-Louis, mais il y avait aussi, comme autre fond de clientèle, beaucoup de blanchisseuses, car moi, je n'ai pas connu les bateaux-lavoirs qui s'amarraient en grand nombre en contrebas du quai d'Anjou, du quai de Bourbon, et qui ont tous disparu. Les derniers ont disparu avec la Deuxième Guerre mondiale, faute de charbon, naturellement, pour alimenter leurs chaudières. Et donc, je voulais raconter aussi un peu cette vie sociologique du fleuve, de Paris, de l'île Saint-Louis, et Voilà, et donc je suis parti à l'enquête sur ce café, et j'ai aussi remonté la vie des trois propriétaires successifs. Donc il y a une côté sociologie dans ce livre. Et enfin, c'est ce que vous avez évoqué, et c'est que mon attention n'aurait peut-être pas été attirée sur ce bistrot si je n'avais pas lu dans tel ou tel ouvrage, je pense à Dos Passos, je pense à Hemingway, je pense au poète un peu oublié aujourd'hui, c'est injuste, Jean de la Ville de Miremont, dans des correspondances, j'avais pas vu de nombreuses références à ce bistrot. Et donc l'enquête, en fait, c'était une triple enquête. C'est une enquête d'abord assez longue, assez difficile, pour retrouver les propriétaires, ce qu'ils étaient devenus, d'où ils venaient, retrouver qui ils étaient, voire interroger des lointains héritiers, des arrière-petits-enfants ou arrière-petits-neveux. C'était donc une longue enquête historique et aussi une enquête littéraire qui était peut-être la plus passionnante, car je savais qu'il y avait deux, trois écrivains qui en avaient parlé, mais quand j'ai commencé à écrire ce livre, je ne soupçonnais pas, mais pas du tout, à quel point ce café avait été, ce bistrot, ce restaurant avait été adopté par de nombreuses très grandes figures littéraires. Et qui, pour la plupart, c'était pas seulement un bistrot où ils venaient. Bon, il y en a eu, bien sûr, certains sont venus un peu occasionnellement. Mais pour beaucoup, et c'est ça qui m'intéressait, c'est que ce bistrot, et je pense surtout à sa première propriétaire, était comme une famille, au fond. Cette Madame Lecomte, elle s'appelait Madame Lecomte, la première propriétaire, qui était avec un mari et un fils, mais c'est surtout elle qui était la forte personnalité auquel les écrivains font allusion. Les gens se sentaient en famille. Et je voulais raconter tout cela. Et ça a été une enquête qui m'a vraiment enchanté, qui était longue, qui était difficile, mais qui m'a enchanté car j'ai vu d'un seul coup, en tirant sur le fil de la pelote, si je puis dire, à quel point un nombre incroyable de belles figures apparaissait. Et c'était aussi pour moi l'occasion de les faire revivre, tous ces écrivains, essentiellement des écrivains, le temps au moins d'un passage dans l'île Saint-Louis. Et c'était une manière pour moi, en quelque sorte, de m'attabler avec des gens avec qui j'aurais aimé partager un repas, voilà, et qui s'appelle John Dos Passos, qui s'appelle Hemingway, qui s'appelle Simenon, Blaise Cendrars, etc. Puis on peut citer d'autres noms, évidemment, on va en parler au cours de notre conversation.
Toujours est-il que lorsque vous convoquez ces écrivains, on ne sait plus très bien, ou c'est probablement les deux, si vous les convoquez pour parler du rendez-vous des mariniers ou si le rendez-vous des mariniers est un prétexte pour parler des écrivains. Et je poursuis, on a l'impression que la personne avec laquelle vous auriez aimé vous attabler, avant tout, c'est cette fameuse Madame Lecomte. Est-ce que je me trompe ?
Non, non, vous ne vous trompez pas, parce que c'était une personnalité très forte, semble-t-il, d'après ce que j'en crois dans les correspondants de ce beau poète, qui était un ami d'université de François Mauriac à Bordeaux, et qui était arrivé à Paris faute de pouvoir être dans la marine, mais ses problèmes d'yeux, sa myopie terrible l'empêchait de viser une carrière militaire, était arrivé à Paris désespéré de ne pas pouvoir être marin, et après quelques adresses se retrouve quai d'Orléans.
Vous parlez de Jean de Miremont.
Jean de la Ville de Miremont, et il va mourir très vite dans les premiers combats de 1914, à l'âge de 26 ans, je crois, ou 27 ans, je ne me souviens plus au juste. Et Jean de la Ville de Miremont, on parle de Madame Lecomte, il raconte comment à sa mère, il apprend à lire à son petit garçon avec ses amis, il parle des bons gigots de Madame Lecomte pour lui et ses amis, il décrit la clientèle
Est-ce que vous voulez bien que je lise ce passage ?
Je vous en prie.
Donc, cette correspondance date de novembre 1912, avant la déflagration qui s'annonce. Et voici donc ce que Jean de la Ville de Miremont écrit à sa maman, qui elle est restée à Bordeaux. « Le jeudi, nous allons dîner tous chez Madame Lecomte, au rendez-vous des mariniers, quai d'Anjou. La patronne nous fait cuire un gigot et nous apprenons à lire à son fils. J'ai fait la connaissance dans ce bistrot de bon nombre d'ouvriers. La plupart sont très sympathiques. Ils sont beaucoup plus polis que les bourgeois. » Leur grande joie est de faire partir des pétards sous la chaise de M. X, qui en a une peur épouvantable. Là trônent de grosses lavandières aux mains pleines d'engelures, qui vous rappellent les tricoteuses de la terreur dont elles descendent. Nous échangeons de joyeuses plaisanteries. Elles chantent à table des romances sentimentales, et dans leur lavoir tordent le linge, comme elles vous étrangleraient un bourgeois capitaliste. Je passe pour un jeune homme très sérieux, quoique plaisant, et l'on sait fort bien que j'appartiens à la préfecture de police. c'est qu'il faut vivre. Après tout, les flics peuvent être de bons bougres.
Voilà, parce qu'en effet, il avait, parmi ses recherches de travail, il avait trouvé un poste à l'administration, à la préfecture de police, pour surveiller des problèmes de pension, des choses comme ça. Et voilà, ben là, je pense que tout est bien brossé déjà du portrait de cette Madame Lecomte, dont on va ensuite parler avec une émotion non feinte, ce très, très grand écrivain américain qui est John Dos Passos, qui lui, c'est un homme qui a 21 ans en 1917, son père vient de mourir, et son père n'est plus là pour l'empêcher de vouloir connaître la Grande Guerre, à l'époque où l'Amérique n'est pas encore entrée en guerre auprès des Alliés, auprès des Anglo-Français, et il décide de s'engager comme volontairement dans un service d'ambulance pour aider d'abord les Français, pour qui il a beaucoup de sympathie, mais surtout pour voir ce conflit qui lui semble préfigurer peut-être une révolution mondiale.
Alors même qu'il est pacifiste d'ailleurs.
Alors qu'il est pacifiste précisément, il est pacifiste, mais il veut voir ce que c'est que cette guerre qui lui semble annoncer d'autres grands séismes sociaux, peut-être. Il se trompe en cela, d'une certaine manière. Et peu importe. Et donc, il arrive à Paris en 1917 et il connaît le bistrot, puis il va vite revenir un peu en permission à un moment donné. Et il va s'installer là, et puis surtout après la guerre, il va s'installer là. Et il dit, mais c'est incroyable, ce bistrot dépassait... en rêve, tout ce que à quoi nous aspirions, c'était pas cher, c'était bon, Madame Lecomte est formidable. Et si bien qu'il va même louer une chambre au-dessus du restaurant, et il écrira là l'essentiel de son premier roman, qui est un roman oublié aujourd'hui, qui n'est pas son chef-d'œuvre évidemment, mais qui est un livre intéressant, qui s'appelle « Trois soldats ». Et après, il ne cessera de venir, et c'est là où il y aura un premier bouleversement dans la vie de ce restaurant. C'est qu'après la guerre, il fait la connaissance d'Hemingway, qu'il avait vaguement aperçu en 1918 sur le front italien, parce que Hemingway était aussi ambulancier. Et ils vont se retrouver vers 1922 à Paris, et ils vont sympathiser beaucoup. Hemingway habite tout près, rue du Cardinal Lemoine, donc c'est la rue qui monte vers le Panthéon, près de la place de la Contrescarpe. Et
il suffit de descendre,
et Hemingway... naturellement connaît le rendez-vous des mariniers, puisqu'il y va assez souvent avec Dos Passos, et ils vont donner le mot, si je puis dire, aux Américains, si bien que très vite, dans les années 20, ce restaurant va connaître une vogue incroyable auprès des Américains. Et ce restaurant, qui était vraiment un restaurant, comme le décrit très bien Jean de la Ville de Miremont, vous venez de lire le passage, qui est une clientèle populaire, en 1924, surtout le soir, d'un seul coup, c'est la coqueluche.
C'est là, oui, c'est là qu'on a l'impression qu'on passe de la pension de famille balsacienne voilà. à Montmartre. Quoi.
Quoique Montmartre n'était peut-être pas encore...
Montparnasse,
oui, oui. Voilà. Et c'est étonnant parce que le livre d'or a disparu, mais on a des comptes rendus des gens qui ont relevé des noms sur le livre d'or et on voit des noms absolument incroyables. En 1924, viennent là, pour un passage bref à Paris, les deux plus grandes stars. Mais les stars absolues du cinéma américain et du cinéma mondial. Douglas Fairbanks et Mary Pickford, c'est, je ne sais même pas, même John Wayne, même Brad Pitt, même Marilyn Monroe, même les plus grandes stars de la deuxième moitié du XXe siècle. C'est rien à côté de ce qu'était Mary Pickford, qui était l'idole du monde. Douglas Fairbanks, c'était une idole, mais il y avait guère quoi. Il y avait Charlie Chaplin et peut-être Félix Le Chat, qui étaient aussi connus dans le monde que Mary Pickford ou Douglas Fairbanks. Et ces deux stars absolues viennent dîner aux mariniers. On retrouve au livre d'or la signature de la fille du président Wilson, le président des États-Unis qui était venu pour les congrès de Versailles. Sa fille passe à Paris, elle va au rendez-vous des mariniers. Et mon père, il était né en 1908, donc il était encore jeune, il avait 6 ans, mais il note dans son journal qu'il a tenu après, dans ses mémoires, il se dit « Je me souviens des voitures superbes, enfants avec des femmes magnifiques qui venaient aux mariniers. »
Des limousines qui s'arrêtent devant le rendez-vous des mariniers.
Voilà. Et d'ailleurs, il y a un passage que j'évoque assez longuement dans mon livre, qui est le premier roman de Hemingway, qui s'appelle « Le soleil se lève aussi ». Et dans « Le soleil se lève aussi », il y a un long passage, très beau d'ailleurs, qui se passe au rendez-vous des mariniers, où d'ailleurs Hemingway nomme, sans charger d'autres patronymes, Madame Lecomte par son vrai nom. Et il est là avec un ami qui pourrait ressembler à Dos Passos, le héros et son ami, qui pourrait ressembler par son côté à Dos Passos et à Hemingway. Et ils attendent une demi-heure ou 40 minutes, je crois, pour trouver une table. Et ils pestent parce que les Américains viennent là. Et elle dit, mais l'Arcan, c'est pas possible, on attend. Alors qu'avant, c'était notre restaurant favori. Elle dit, mais venez à midi. À midi, c'est tranquille, on est entre nous. Voilà. Et donc, et puis, il y aura plein d'autres noms, puisque, enfin, je ne veux pas tout raconter le livre. Mais à côté, c'est ça qui est très étonnant, c'est qu'à côté du restaurant, au 29 quai d'Anjou, le bistrot est au 33 quai d'Anjou, il y a une petite presse à bras, et là, sont éditées une revue pendant un an qui s'appelle la Transatlantic Review, mais aussi le premier livre, enfin, non, c'est pas le premier, c'est le deuxième livre d'Hemingway, mais c'est qui s'appelle In Our Time, qui sont des petites nouvelles qui sont imprimées là. Donc le premier livre jamais, le deuxième livre jamais imprimé d'Hemingway, In Our Time, il naît quai d'Anjou.
Les short stories nés quai d'Anjou, voilà. Au rendez-vous du marinier, ou du moins ont été imprimés juste à côté.
Voilà, exactement. Alors, c'est impressionnant. Et puis voilà, on peut continuer si vous voulez.
Oui, mais je voudrais qu'on évoque la revue Transatlantique, parce que après tout, bon, Hemingway, Dos Passos, ce sont des noms connus. Pourquoi ne pas en profiter? C'est tout. C'est aussi l'un des intérêts de votre livre, c'est découvrir des choses qu'on ne connaissait que
parmi
peu
les
ou mal.
Oui. Alors la Transatlantic Review, elle a été créée par un homme formidable, dont Hemingway parle un peu légèrement, avec un peu d'une ironie un peu méchante, dans Paris est une fête, qu'il a écrit juste avant sa mort. Et, c'était un homme qui s'appelait Ford Madox Ford. Et Ford Madox Ford était un homme qui était d'ailleurs le neveu d'un grand peintre pré-raphaélite, Ford Madox Brown, que les amateurs de poésie, de peinture connaissent bien. Et Ford Madox Ford, c'était un homme qui était un assez bon écrivain, qui avait écrit un livre qui s'appelle The Good Soldier, Le Bon Soldat, qui est très bon. Il avait écrit aussi un livre avec Joseph Conrad, qui s'appelle Aventure, je crois. Et Madox Ford était un homme étonnant, c'est très rare, les écrivains, ou les artistes en général, qui considèrent que leur premier devoir, c'est d'abord d'aider les autres, ceux qui ont du talent. Et Ford Madox Ford était un homme généreux qui tendait toujours la main aux autres écrivains. Et en 1924, il a l'idée de créer une revue, il vit en France, il s'est fixé en France depuis peu de temps, qui s'appelle la Transatlantic Review, et qui est publiée donc dans la même presse à bras du 29 quai d'Anjou, et qui est une revue où il accueille tout ce qui lui paraît important en littérature, non seulement transatlantique américaine, mais aussi anglaise, mais aussi française. On voit des gens comme Eric Satie et d'autres qui font des bulletins sur la musique, etc. Et puis plein d'autres écrivains de première importance. Hein, on y retrouve, je crois, Valérie Larbaud, on y retrouve Jim Joyce, on y retrouve Juna Barnes, qui était un écrivain intéressant, on y retrouve Dos Passos. Et le numéro 2 de la Transatlantic Review, il demande à Hemingway lui-même de faire ce numéro spécial, donc de concevoir le sommaire. Et cette revue, qui n'est pas du tout une revue de critique, attention, hein, ça ne l'intéresse pas. C'est des textes de création littéraire. Hein. C'est pas un magazine où on commente les ouvrages des autres. Non, non. Il veut que ce soit des textes littéraires ou des journaux, mais pas des critiques, des recensements d'autres œuvres. Et voilà. Et donc, le numéro du mois d'août de la Transatlantic Review sera fait par Hemingway. Et puis, elle va durer un an, à peu près. Elle dort du début de janvier à décembre 1924. Cette revue existera. Et encore une fois, quand on a du mal à les trouver, les numéros de la Transatlantic Review, malheureusement, ils ne figurent pas à la bibliothèque de l'Institut de France. Je le déplore, mais j'ai pu quand même en avoir connaissance de certains numéros. Et c'est vraiment exceptionnel comme revue. Hein, on ne peut pas dire que Ford Madox Ford ait découvert des grands écrivains. Il les connaissait déjà, mais ils étaient peu connus. Ezra Pound était aussi un des piliers et peut-être aussi l'un des financiers de la revue. Il avait peut-être aidé financièrement Ezra Pound. Et Ezra Pound, d'ailleurs, qui va lui-même aller au rendez-vous des mariniers, hein, voilà. Et qui, non seulement ça, mais va donner des recettes de cuisine à Madame
Alors
Lecomte.
Ça, je veux dire, c'est extraordinaire. Moi, j'aurais bien aimé quand même déguster des recettes de cuisine.
D'Ezra Pound.
D'Ezra Pound, cuisiné par Madame Lecomte.
Parce qu'il a compris, grâce à Madame Lecomte, qu'il a une clientèle américaine, il lui donne des recettes de cuisine américaine. Et je ne sais pas si c'est lui ou Ford Madox Ford, mais elle affiche sur sa porte un petit slogan pour attirer les Américains en disant, excusez-moi, mon accent anglais est abominable, « Here dining well at almost no cost ». Ici, on dîne bien pour presque rien, quoi. Voilà. Et donc, c'est Ezra Pound. Et depuis, ce qui est très amusant, et ça, c'est un scoop, comme on ne dit pas à l'Académie française, que je vous livre, c'est que j'ai, depuis la parution de ce livre et grâce à un relatif succès de ce livre, avec ses nombreuses réimpressions depuis quelques mois, on est à la 9e réimpression, je crois, j'ai reçu beaucoup de lettres de lecteurs. Et beaucoup de lecteurs qui m'apprennent des choses que je ne savais pas. Il y en a un qui me dit, mais n'oubliez pas, vous n'avez pas oublié que Sherwood Anderson, un grand écrivain américain qui était un de peu l'aîné de Dos Passos et Hemingway, et que je considère comme un très très grand écrivain américain, venait aussi là. Et plein d'autres gens. J'ai des lecteurs qui m'annoncent ce qu'est devenue Madame Lecomte, car elle disparaît en 1928, et je dis, mais qu'est-ce qu'elle est devenue ? Je ne sais pas.
Vous lancez d'ailleurs un appel.
Je lance un appel et il y a eu un retour.
Dites-nous.
Voilà, alors je peux vous annoncer que Madame Lecomte, après 1928, à la fois j'ai eu deux réponses. La première, c'est d'un généalogiste qui m'a dit, écoutez, je retrouve la trace de Madame Lecomte où elle est morte en 1966 ou 65, je ne sais plus trop, dans un petit village de l'Oise qui s'appelle Breuil-le-Vert. Voilà. Alors ça, je savais qu'elle était morte donc à 84 ans, 86 ans, mais j'en savais pas plus. Et puis un autre lecteur m'annonce que son père habitait l'île Saint-Louis et son père allait au marinier du temps de Madame Lecomte. Lui était trop jeune pour s'en souvenir, bien entendu. Mais il me dit, quand j'étais petit, mon père m'emmenait voir Madame Lecomte qui s'était retirée dans ce village de l'Oise. Et donc cette femme, on ne sait pas ce qu'est devenu le mari, probablement mort, disparu, sans intérêt, le fils aussi, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Et la brave Madame Lecomte finissait ses jours dans un village de l'Oise, entourée de ses deux nièces. Les deux nièces dont je parle et qui l'aidaient. Qui l'aidaient au restaurant. Et ces deux nièces ne se sont jamais mariées et ont veillé sur Madame Lecomte, qui était plus qu'octogénaire, et jusqu'à la fin de sa vie. Donc, d'un seul coup, j'ai une lettre d'un lecteur qui me dit « J'ai vu Madame Lecomte ». C'est très émouvant. Ou un autre exemple de lettre de lecteur qui pour moi, me touche beaucoup, c'est... J'évoque assez longuement, et on en parlera si vous le souhaitez, Pierre Drieu-La Rochelle. Aragon, bien sûr, et Drieu, qui étaient deux amis d'ailleurs de Dos Passos. Parce que Dos Passos parle dans ses souvenirs de ses dîners avec Aragon et Drieu, du temps de la très très grande amitié qui les liait l'un à l'autre avant que la politique ne les séparât. Et Drieu donc, a habité environ 5 ans l'île Saint-Louis, en gros de 1928 à 1933, dans deux endroits différents, rue Saint-Louis, puis après la pointe de l'île Saint-Louis. Et je dis, il est très vraisemblable qu'il allait au marinier, mais je n'ai trouvé aucun témoignage qui l'atteste de manière certaine. En revanche, Aurélien, dans le roman d'Aragon, Aurélien qui est un peu un double imaginaire de Drieu, mais non déguisé, puisque Aragon lui-même reconnaît que c'est inspiré de Drieu. Aurélien, qui habite à la pointe de l'île Saint-Louis comme habitait Drieu, va au marinier. Bon. Et je reçois, il y a un mois à peu près, une lettre d'une dame dont on voit l'âge par l'écriture peut-être un petit peu tremblée, qui s'appelle Brigitte Drieu-La Rochelle et qui me parle du marinier. Elle était la femme du jeune frère de Drieu. Drieu avait un jeune frère qui s'appelait Jean, qui était architecte et qui est mort maintenant. Et elle n'a pas connu son beau-frère, elle n'a pas connu Drieu qui est mort en 1945, qui s'est donné la mort en 1945 pour les raisons que l'on sait. Mais elle me dit, après la guerre, quand j'ai épousé Jean, on allait aux mariniers. Et donc elle me parle des mariniers de la dernière période, ce n'est pas celle qui était la plus gastronomique sans doute, mais peu importe. Et elle me dit, on y allait aussi en mémoire de Pierre. Je dis, parce qu'elle dit, donc elle me dit, oui, parce que Pierre était un familier des mariniers. Donc ce que je ne faisais.
Déjà une énigme de résolu.
Voilà, ce n'était pas une énigme, mais je dis, il est très vraisemblable, mais je ne pouvais pas dire il allait aux mariniers quand j'en ai pas la preuve tangible. Cette preuve tangible, cette confirmation de mon hypothèse, elle est venue, il y a encore une fois, un mois, à peine un mois, par une lettre de la belle-sœur de l'intéressé.
Oui, parmi les pièces qui vous laissaient penser qu'il pouvait y être présent, c'est que vous parlez notamment d'un dîner qui s'est tenu le 23 mars 1933, où Pierre Drieu-La Rochelle n'est pas présent, mais où il est question de, oui. Où il est question de lui.
Oui, pour moi, c'est peut-être le plus grand moment dans la vie, en tout cas littéraire, des mariniers. C'est ce fameux dîner du 23 mars 1933, parce que là se rencontrent deux grands écrivains, un immense écrivain et un grand écrivain, que tout oppose et que tout opposera évidemment par la suite. Et ces deux écrivains, ce sont François Mauriac et Louis-Ferdinand Céline. Et donc, il faut peut-être remettre les choses en perspective, pour faire très, très bref. Mais à l'automne 1932 est sorti le premier roman d'un inconnu qui n'est pas tout jeune, puisqu'il a 38 ans, qui est le docteur Destouches, et qui signe Louis-Ferdinand Céline, un roman qui fait un vacarme incroyable dans l'histoire de la littérature française du XXe siècle et qui est « Voyage au bout de la nuit ». Et ce livre suscite des passions, des polémiques, des disputes. Aura-t-il le prix Goncourt ? Ne l'aura-t-il pas ? Les gens sont offusqués, mais en même temps, il y a une sorte de concert ou de louanges ou de critiques, mais c'est un événement qui secoue totalement le monde littéraire. Il n'y a pas beaucoup de séisme de cet important dans toute l'histoire de la littérature française du XXe siècle. Un livre qui fait l'événement, et vraiment on a l'impression qu'il y a quelque chose d'inouï et qui est, qu'on n'a jamais entendu, qui apparaît dans la littérature. Et qui, naturellement, beaucoup de bonnes femmes sont offusquées. Et il y a Mauriac. Et Mauriac, lui, on ne sait pas comment il a réagi. On ne sait pas comment il a réagi, puisqu'il n'a jamais fait d'article proprement dit sur le voyage. A-t-il écrit à Céline, peut-être ? On a retrouvé quand même trace, à la fin de l'année 1932, je crois que c'est dans l'Écho de Paris, où il avait un éditorial où il fait une allusion à un voyage, en disant, on a peut-être beaucoup trop parlé de ce livre pour des prix, ce livre de toute façon dont il ne faut recommander la lecture à personne, écrit-il. Mais qui malgré tout, même ce livre dont il faut recommander la lecture à personne, dit-il, il y a quand même une peinture des banlieues qui est quand même oppressante. Est-ce que c'est ça ? Peu importe. En tout cas, on a une lettre de Céline à Mauriac qui est très impressionnante, qui est amusante, qui est à la fois très désinvolte et très, à la fois respectueuse et désinvolte à la fois, ou sur papier en tête du dispensaire de Clichy où il travaillait à l'époque, il lui écrit un petit mot, lui disant en substance que rien ne les rapproche. Quoi. Il disait, vous appartenez à un autre monde, vous voyez d'autres gens, pour moi simplet, Dieu n'est qu'un truc, pour ne pas penser aux hommes, pour déserter en somme superbement, vous voyez combien je suis argileux et vulgaire, etc. Il dit cette phrase qui est formidable, je n'ai que l'ambition d'une mort, je suis écrasé par la vie, ça c'est tout à fait Céline, je suis écrasé par la vie, je veux qu'on le sache avant d'en crever. Je n'ai que l'ambition d'une mort peu douloureuse mais bien lucide et tout le reste c'est du yo-yo, à vous Céline. Bon, c'est une lettre comme ça envoyée à Mauriac qui est le romancier, lui, le plus célèbre de cette époque. Tous ces grands romans sont à peu près déjà publiés, c'est la référence absolue de la grande littérature française des années 30, et même de la fin des années 20, des années 30. D'ailleurs, quelques mois plus tard, à la fin de l'été 1933 ou printemps 33, il sera élu à l'Académie française. Donc c'est une forme de consécration à cette époque-là. Et donc, il y a ce dîner, c'est un homme qui s'appelle Ramon Fernandez, il paraît qu'il voulait qu'on l'appelle Ramon, alors appelons-le Ramon Fernandez, qui habite à côté du Rendez-vous des Mariniers, quai de Bourbon, dans l'île Saint-Louis, et qui est un homme qui connaît Mauriac et qui avait fait un article sur Céline, et ils ont correspondu un petit peu, et il les met en présence l'un à l'autre. Et donc il y a ce dîner entre Mauriac, obsédé par la chair, le péché, le mal, et Céline qui est au contraire un homme non-croyant, mais aussi dans le cauchemar crépusculaire du monde où la mort seule est présente, justement l'érotisme, l'amour, les petits frissons d'amour, c'est peut-être une des seules chances d'échapper un peu à la pesanteur, un bref moment de grâce avant de retomber dans le cloaque comme ça de la vie, ce qui d'ailleurs rend par certains côtés Céline assez pascalien, par certains côtés moins Dieu bien sûr, mais et donc il y a ces deux hommes que tout oppose, pour l'un la chair est triste et c'est le péché, pour l'autre la chair est une des rares éclaircies dans le monde, et entre la belle écriture provincialo-française de Mauriac et puis l'éclatement de la langue s'inspirant un peu du langage parlé, s'inspirant pour créer un style nouveau, incroyable, halluciné, qui va bouleverser la langue française. On se dit, mais qu'est-ce qu'il y a de point commun ? On ne sait pas ce qu'il y a eu comme point commun. Mais ce qui est sûr, c'est que le dîner a dû bien se passer et que Céline a dû fasciner Mauriac. Je ne sais pas s'ils ont dialogué. J'en suis pas sûr parce que je connais bien Céline pour avoir écrit de nombreux ouvrages sur Céline depuis ma thèse de troisième cycle sur Céline. Et Céline n'était pas vraiment quelqu'un qui dialoguait. Tout ce que j'ai pu recueillir comme témoignage sur Céline, tout ce que je sais sur Céline, c'est un homme qui était plutôt d'un côté un voyeur ou un écouteur, quelqu'un qui observait le monde, qui se taisait. Et quand il se mettait à partir, c'était des monologues absolument enflammé, visionnaire, drôle, parfois, parce qu'il y avait un côté cocasse chez Céline, cabot, qu'on n'a pas... Cabot, je ne sais pas, mais enfin, parce que c'est, il y avait, Cabot, c'est un peu réducteur, parce que vraiment, tous ceux qui l'écoutaient étaient émerveillés par cette foisonnement visionnaire de Céline, comme ça. Alors, bien sûr, il y avait peut-être beaucoup de déchets dans ce qu'il disait, mais c'était assez impressionnant. Donc, est-ce que Mauriac faisait parler pour l'observer comme un... Oui, comme j'ai dans le film, comme un gros chat, comme ça, qui regarde sa proie un peu amusée, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, ça doit bien se passer, puisque d'après les carnets que tenait la femme de Ramon Fernandez, qui notait tout, elle disait, au rendez-vous des mariniers, tel jour, Ramon a dîné avec André Malraux, avec Jean Paulhan, donc on voit encore arriver aux mariniers. Je n'ai pas fait des chapitres là-dessus, parce que je ne savais rien d'autre, mais encore une fois, des gens quand même pas médiocres du tout. Et après la soirée, donc le fameux dîner du 23 mars 1933, on sait que Céline, ils finissent la soirée à Montmartre chez Céline. Donc probablement, ils n'ont pas envie d'arrêter là si brièvement. Et Céline va les emmener chez lui, il habite à l'époque rue Lepic, et il va les emmener chez lui finir la soirée. Et naturellement, cette rencontre n'aura jamais de suite, parce que Céline va se renfermer un peu pour écrire son deuxième livre, Mort à crédit, qui va être lui... Au contraire, ça va être l'échec absolu, attaqué par tout le monde. Même ses défenseurs de 32 vont se faire porter pâle pour ce roman personnel, familial, qui est Mort à crédit. Et ça va définitivement couper tous les liens entre Céline et le monde littéraire. Liens qu'il avait assez bien entretenus, d'ailleurs, en 32. Ce type, soi-disant, comme ça, asocial, en fait, était aussi assez flatteur pour s'introduire dans ce monde, pour connaître des gens, etc. Et là, c'est fini. Et puis après, donc, dès 1937, il y avait les pamphlets antisémites. Et là, les ponts sont définitivement coupés avec des gens comme Mauriac. Ça va être la haine absolue. La haine absolue de Mauriac sur Céline, qui va définitivement juger comme un olibrius infréquentable. Et je crois, sans aucune estime pour l'œuvre littéraire. Et Céline va prendre Mauriac comme l'exemple même du jésuite, voilà, de l'agent double, enfin, du type faux, médiocre, absolument haineux. Voilà, ça va être une méconnaissance totale de l'un pour l'autre. Et puis en même temps, aujourd'hui... voilà, entre l'œuvre romanesque, je dis romanesque, de Mauriac, qui est importante, qui est peut-être trop négligée, et celle de Céline, il y a la différence entre un très bon écrivain et un des plus grandes voix de la littérature française du XXe siècle. Quoi.
Dans ces grandes voix également présentes aux mariniers, je suis désolé de cette transition qui est un petit peu abrupte, mais je vois l'heure tourner, nous devons nous quitter dans 10 minutes, et je ne voudrais pas que nous quittions sans que vous évoquiez Simenon.
Oui.
Simenon, dont on n'a pas de preuve non plus qu'il a fréquenté les mariniers, mais de fortes présomptions.
Alors c'est amusant pour Simenon, parce qu'il va de soi que les mariniers, dans ce qu'ils représentent, l'atmosphère, le climat, la famille qui fait le frishti, les familiers, les mariniers qui viennent s'y attabler, les blanchisseuses, c'est un univers hyperboliquement simenonien. Et il était tellement simenonien que moi-même, quand j'ai commencé à écrire ce livre, j'étais persuadé, mais vraiment persuadé, que Simenon en avait parlé dans un de ses romans, et plus vraisemblablement, à mes yeux, dans un Maigret, car c'était vraiment le décor simenonien par excellence. Alors pour m'en assurer, j'ai fait des recherches, j'ai pas trouvé, j'ai quand même relu à peu près 80 Maigret, hein. Donc j'ai passé 2 mois et demi à relire avec un bonheur sans mélange tous les Maigret. Alors j'ai vu un tas de références, évidemment, à la batellerie, parce qu'on sait que Simenon, pendant quand même plusieurs années, au tournant des années 20, début des années 30, a vécu sur des bateaux. Il a arpenté tous les fleuves et les canaux du nord de la France, de la Belgique, de la Hollande, même de l'Allemagne. Et c'était vraiment un homme qui a donc parlé dans ses romans. Maigret, né au début des années 30, au moment où il devient un écrivain un peu plus consacré et moins le polygraphe qui tire à la ligne en écrivant 10 romans par an ou 20 romans par an, c'est une fécondité hallucinante. Et donc, la création de Maigret est à peu près... Et début des années 30, quand il est sur un bateau. Et je disais, je me suis trompé. Au fond, c'est un décor simenonien. J'ai revu toutes les références à l'île Saint-Louis dans les romans de Maigret. Hein. J'ai tout relu, les Maigret, noté des références. Mais Simenon invente les enseignes, à part quelques enseignes célèbres comme Maxime, etc. C'est toujours, il réinvente un Paris totalement réaliste et totalement imaginaire quant au nom, propre des hôtels et des trucs. Et puis, il y a eu cette photo que j'ai trouvée par hasard, qui est cette photo de Simenon à la barre de son bateau, qui était à l'époque l'Ostrogo, amarré sous les mariniers. Mais exactement sous les mariniers, à 3 mètres ou 10 mètres près, il y a la photo, on le voit à la proue de son bateau, ou à la poupe, je ne sais plus, avec le pont-marie qui se découpe derrière. Il est sous les mariniers. C'est d'ailleurs là où il va faire une grande fête un jour, au début du mois d'août 31, je crois, pour lancer une nouvelle collection qui n'aura pas beaucoup de succès et qui va abandonner. Donc, il fait une fête, là. Donc, il me paraît évident, mais c'est même, il n'y a même pas l'ombre d'un doute, que durant les quelques, je ne sais pas, 5, 6, 8, 10 jours où il a amarré son bateau sous le marinier, il y a été. Ça, c'est incontestable qu'il y a été. Donc, la longue évocation que je fais de Simenon n'a pas pour vocation de mettre le doigt sur une preuve évidente et avérée de la présence de Simenon à Marinier, mais pour montrer d'abord qu'il était dans les lieux, à côté, et montrer aussi à quel point ce décor est un décor totalement simenonien. Et je ne pouvais pas ne pas évoquer cet immense écrivain qu'est Simenon à propos des mariniers.
Les mariniers, finalement, c'est une sorte de rival disparu du flore, de la closerie des Lilas.
Et là,
on ne peut plus. Oui, plus que
je
cela.
Je crois que plus que ça, parce que le flore, les mariniers. Bon, c'est vrai que bon, on peut dire que Sartre écrivait comme ça dans ses cafés, comme ça, mais. Au Flore et les Mariniers, les écrivains allaient pour se faire, je dirais pas pour se faire voir, mais c'était un rendez-vous manifeste de la bohème. On y allait pour ça. Les Mariniers, c'était une famille. On allait, et c'était par surcroît. C'était aussi un rendez-vous d'écrivains. Mais un rendez-vous, je sais même pas. C'était plus un rendez-vous des écrivains avec les patrons du restaurant aussi, ou alors pour eux-mêmes. C'était un refuge. C'était pas le lieu pour se faire voir, les Mariniers. Non, il n'y a jamais eu une mythologie des mariniers. D'ailleurs, moi, je suis le premier à en parler. Alors que le Flore, alors que les deux Magots, alors que tous les bistrots de la Rotonde, tout ce que vous voulez, tous les bistrots de Montparnasse aussi, non seulement de Saint-Germain-des-Prés, de Montparnasse, étaient des lieux mythiques, qui sont devenus mythiques, parce que c'était entretenu. Les mariniers, pas du tout. Les mariniers, pas du tout. C'était un lieu de vie. Et c'est ça que j'ai trouvé formidable. C'est que c'était un lieu de vie où les écrivains, pas seulement les écrivains, il y avait aussi Picasso, après la Deuxième Guerre mondiale, qui y allait souvent, mais c'était un lieu de vie où les gens allaient, d'abord pour se restaurer. Je suis sûr qu'ils avaient ils entretenaient des liens avec les patrons, et c'était au fond, je ne sais pas comment dire, c'est très difficile à définir au fond, les mariniers. Comme dit Jean de la Ville de Miremont au début des Mariniers, il disait à sa mère, peut-être qu'il veut rendre jaloux sa mère, mais il dit, elle nous fait comme à la maison, elle nous fait des bons gigots pour nous. C'est une famille, en fond, en quelque sorte. C'est une famille, alors que je ne crois pas que le Café de Flore et les patrons du Café de Flore, c'était une famille pour les écrivains. C'était un grand truc où les gens allaient, bon, il y avait de l'agitation, de la bohème, ça allait. Alors que là, c'est tout petit, les mariniers. C'est un petit cocon où l'on est presque comme chez soi. Donc c'est l'antique Café de Flore, en quelque sorte. C'est pas un truc qui jaillit sur les gens viennent. Non, pas du tout. On est là, il y a 25 tables. La patronne fait de la cuisine, elle fait l'addition sur une ardoise, ou elle écrit l'addition sur sa grande ardoise. Et les gens, voilà. C'est comme l'île Saint-Louis, au fond. L'île Saint-Louis, c'est pour ça que j'aime ce quartier où je suis né, où je n'ai jamais cessé de vivre. L'île Saint-Louis, c'est un refuge loin du monde. Le Flore, le Demago, c'est le monde. L'île Saint-Louis, c'est là où on se replie pour échapper au monde. C'est une île, et comme une syndicale, on est isolé dans une île. C'est l'étymologie d'isola, les mots italiens. Cette insularité a quelque chose à voir avec l'isolement. Et donc, je pense que les gens s'isolaient au rendez-vous des mariniers, s'isolaient entre happy few, comme aurait dit Stendhal, je ne sais pas. Et c'est ça qui me touche beaucoup. Et c'est pourquoi ce livre, pour moi, c'est une... Voilà, je l'ai dit, c'est une manière aussi de... Là, on est isolé, c'est comme un confessionnal où on passe aux aveux, en quelque sorte. Et je pense, curieusement, que ce livre qui pourrait être objectif, hein, c'est le récit d'un café avec ses trois propriétaires, c'est les gens qui les ont fait, qui l'ont fréquenté, les silhouettes de ces personnages. Vous avez dit justement que je ne sais pas si c'est les personnages qui m'intéressent ou les liens avec les mariniers ou les liens compliqués entre les deux et comment ils interfèrent l'un l'autre. Mais comme tous les lieux fermés, on passe aux aveux. Et à un moment donné, par exemple, à la fin du livre, j'ai écrit une phrase comme ça. Elle est venue comme ça à la fin du livre. Quand je cherchais à définir les mariniers, j'avais écrit cette phrase. Au fond, le rendez-vous des mariniers, c'était le lieu de l'île Saint-Louis où mon père n'allait pas. Et puis je me suis arrêté, j'ai écrit cette phrase, c'est curieux. Et je me suis demandé, très sincèrement, si ce n'est pas pour ça que j'avais écrit mon livre. J'ai écrit ce livre parce que c'était le lieu de l'île Saint-Louis où mon père n'allait pas. Et il y a plein de raisons pour lesquelles il n'allait pas. Mon grand-père était un homme de gauche, plutôt Dreyfusard, intéressé par la franc-maçonnerie, anticlérical. Mon père est devenu un homme de droite, converti au catholicisme, conservateur, jusqu'à même des engagements qui pouvaient être passible d'ennui à la libération, etc. Je ne veux pas insister là-dessus. Mais mon père n'allait pas au Marinier. C'était un restaurant populaire à 200 mètres de chez lui. Il ne serait pas venu à l'idée d'aller dans ce restaurant où, en revanche, il est vraisemblable que mon grand-père allait. Donc, ce n'était pas son monde. Et au fond, peut-être, quand on écrit des livres, c'est peut-être pour parler de ses parents, bien sûr, mais c'est pour aller aussi là où ses parents n'allaient pas. Et si j'ai écrit ce livre, c'est peut-être aussi pour ça, pour m'ouvrir sur un monde où mon père n'avait pas, ne cherchait pas à avoir accès. C'est assez compliqué, mais je crois que sur ce plan-là, ce livre me tient beaucoup à cœur, non pas au point de vue parce qu'il est bon ou pas bon, j'en sais rien, et puis c'est pas moi d'en parler, bien entendu, mais parce que j'ai l'impression d'avoir essayé de pénétrer dans l'intimité d'un lieu qui, curieusement, d'une certaine manière, parle de moi, justement par opposition à ma famille qui habitait à l'autre bout du quai.
Vous savez, en vous écoutant, je me dis que vous nous avez aussi invité dans un lieu dans lequel on ne pourra pas se rendre, bien évidemment, parce que d'une part, il est fermé, il n'existe plus, mais en un lieu qui nous est devenu un petit peu inaccessible, c'est cette France engloutie, non pas par la Seine, mais par... autre chose qui s'appelle, je ne sais pas quoi, la modernité, la postmodernité.
Oui.
Et on a l'impression terrible que, voilà, que tout cela a été un instant, un moment dans l'histoire et qu'on serait bien en peine de retrouver. Je parle d'un autre bar, mais on a un petit peu le même sentiment quand on essaye de se rendre, je ne sais pas, par exemple au Barbac en se disant qu'on va voir le fantôme d'Antoine Blondin et... Et bon, le Barbac existe toujours et ce n'est plus la même chose.
Je crois que vous avez raison. C'est aussi ce livre... il y a le récit d'Hemingway, Paris est une fête. C'était un moment de l'histoire de la France, un moment de l'histoire de Paris, un moment de l'histoire du fleuve et un moment de l'histoire plus précisément de l'île Saint-Louis qui reflète un peu ça, cette période-là qui est aujourd'hui pratiquement incompréhensible pour les jeunes qui vivent une autre vie avec d'autres rites, d'autres façons et peut-être une autre culture ou une autre inculture, ça, chacun en discutera.
En tout cas, merci beaucoup, car néanmoins, grâce à votre ouvrage, nous avons souvent l'impression que nous pouvons nous accouder au zinc, je ne sais pas s'il y avait un zinc, mais
oui.
Au zinc du bar des Mariniers, en très bonne compagnie, en compagnie donc des personnages célèbres que vous avez évoqués, et bien d'autres, mais nous n'avons plus le temps, on aurait pu parler de Nancy Cunard, et bien d'autres encore, et pour les découvrir, pour découvrir ce lieu... pour avoir le sentiment de se faire mitonner à notre tour un petit gigot par Madame Lecomte, eh bien, il n'y a qu'une seule chose à faire, lire votre ouvrage Frédéric Vitou. J'en précise donc les références. Je rappelle le titre facile à retenir, Au rendez-vous des mariniers par Frédéric Vitou aux éditions Fayard. Merci à tous de votre fidélité et donc rendez-vous chez les mariniers.
Merci. Thank you.